On va lire dans le livre des Actes, non pas au chapitre 26, mais au chapitre 3. Actes 3. Il y a quatre périodes dans l'histoire du monde où il y a eu beaucoup de miracles, où Dieu s'est révélé de façon exceptionnelle avec beaucoup de miracles et du miraculeux. Il y a eu la période de l'Exode, il y a eu le ministère de Jésus-Christ. Entre ces deux-là, il y a eu le ministère des prophètes Élie et Élisée. Et puis aussi, pendant les actes des apôtres, nous voyons beaucoup de miracles, surtout accomplis par les apôtres, mais aussi par d'autres chrétiens. Et nous avons un miracle que nous allons lire. Actes 3, verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et s'y mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme. » Et il s'ensuit une prédication de la part de Pierre que nous ne lirons pas. Alors, avec ce texte, j'aimerais juste poser tout simplement des questions. Et on va regarder des choses. D'abord, on va regarder où cela se passe. Alors, cela se passe, bien sûr, dans la ville de Jérusalem, qui était au premier siècle, la capitale d'Israël. Une ville dont on parle des dizaines de fois dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Mais nous allons faire un zoom. Vous savez, si vous avez un iPad ou un ordinateur, vous prenez Google Earth et vous appuyez dessus et vous zoomez sur la ville de Jérusalem et nous allons trouver le nom de la rue où ce miracle s'est passé. Le nom de la rue est marqué sur le texte. La rue du Temple. Je n'exagère pas. La rue du Temple. Donc on zoome sur la rue du Temple et on va trouver cette énorme bâtisse construite ou reconstruite en partie par le roi Hérode. Et ce bâtisse faisait 200 mètres sur deux côtés et 400 mètres sur deux côtés. Un peu comme le nouveau stade de l'Olympique Lyonnais peut-être. C'était énorme. Ça représentait 15% de la superficie de la ville de Jérusalem à l'époque. Mais on va zoomer encore. On arrive à la rue du Temple, on arrive au Temple, et on va zoomer sur une porte. Le Temple avait 9 portes. Et nous lisons que ce miracle a eu lieu devant la porte appelée Belle. Alors, il n'y avait pas une porte qui s'appelait la Belle. Ou la belle porte. Mais une porte avait un surnom, la belle porte, la porte orientale, Parce qu'on dit que cette porte-là était construite avec du bronze de Corinthe. Et quand le soleil se levait dans l'est, le soleil se lève dans l'est, c'est quoi, hein? Oui. Eh bien, il se lève, le soleil brille, sur le bronze, ça se reflète et on dirait de l'or. D'où la porte belle ou la belle porte. Donc voilà, on est au temple, la rue du temple, la porte belle. Voilà où cela s'est passé. Alors, quand est-ce que cela se passe? Eh bien, sans doute quelques mois après l'ascension de Jésus-Christ, mais nous avons une indication précise. Cela s'est passé un après-midi. Cela s'est passé à 15 heures précises. À 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean vont à la réunion de prière. À 15 heures. Ça vous rappelle quelque chose, 15 heures dans le Nouveau Testament? Lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qu'il y a eu de midi à 15 heures? On ne voyait rien. Ténèbres. Noir de chez noir. Nuit de chez nuit. Jusqu'à 15 heures. Dans Acte 10, Pierre a une vision de quelque chose. Et ça s'est passé à 15 heures. Quelques jours plus tard, il va chez Corneille pour une réunion d'évangélisation, et ça se passe à 15 heures. Corneille est en train de prier, un ange vient lui parler, et ça se passe à 15 heures. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi à 15 heures? Ah ben, je mène ma femme à la gare parce qu'elle prend le train. Mais ça se passe à 15 heures. Et que font Jean et Pierre? Eh bien, ils vont à la réunion de prière. La sieste est terminée et ils vont prier. C'est une bonne habitude d'aller à la réunion de prière. C'est un bon réflexe d'aller à la réunion de prière. Pierre et Jean, ils y vont et ils sont heureux d'y aller. Quand il y a des réunions de prière dans vos églises, dans nos églises, est-ce que nous sommes heureux d'y aller? Est-ce que nous y allons? Est-ce que nous croyons à la prière? Parfois, ici à Sonara, ça fait 3 ans que nous y sommes, vous dites moi, parfois à la réunion de prière mensuelle, on est 25, parfois on est 10, 9, 8. Prions et soutenons les réunions de prière. Dans le livre des Actes, j'ai dit ça il y a quelques semaines, il y a beaucoup de réunions de prière, pour beaucoup de sujets. Dans presque chaque chapitre, il y a des réunions de prière pour des sujets bien précis. Mais ce que je remarque aussi dans les Actes des Apôtres, il y a beaucoup d'endroits où des réunions de prière ont lieu. Il y a une salle au premier étage dans une maison, et c'était une salle de prière, dans Actes 1. Dans Actes 6 et 9, il y a des gens qui prient à la campagne. Dans Actes 9 aussi, quelqu'un prie dans la rue. Dans Actes 12, il y a une réunion de prière dans une maison. Dans Actes 10, quelqu'un est en train de prier sur le toit d'une maison. Dans Actes 16, il y a des gens qui prient en prison. Actes 20, des gens qui prient dans un bateau. Actes 28, des gens qui prient dans une chambre. Et aussi dans Actes 28, des gens qui prient sur une île, l'île de Malte, sans doute sur la plage ou à la campagne. Comme quoi, on n'est pas obligé seulement de prier au temple ou dans une salle de culte, mais on peut prier bien sûr n'importe où et n'importe quand. Pierre et Jean vont à la réunion de prière. D'ailleurs, j'ai remarqué l'autre jour en lisant Actes 9 qu'à deux reprises, on a une description intéressante des chrétiens du premier siècle. Les chrétiens du premier siècle sont décrits de la façon suivante. Il s'agit de ceux qui font appel à Dieu. On voit ça une fois, et puis on voit, il s'agit de ceux qui font appel à Jésus. Ça, c'est une bonne description des chrétiens du premier siècle. Est-ce que cette description pourrait nous convenir? Est-ce que les gens qui vous connaissent savent que vous faites appel à Dieu? Est-ce qu'ils savent que vous faites appel à Jésus? une bonne description. Alors, maintenant, troisième question. On a vu le où et le quand, mais de qui s'agit-il? Alors, d'abord, il s'agit d'un mendiant. À l'époque, il y avait des centaines de mendiants à Jérusalem. Des centaines de personnes qui faisaient l'aumône, la quête. Mais on va zoomer sur celui-là. C'est un homme qui n'a jamais marché. C'est un homme qui, tous les jours, était au même endroit. Dans la ville de Lyon, on croise des mendiants qui sont toujours au même endroit. Toujours au même feu rouge. Toujours devant la même entrée d'immeuble. Cet homme-là était toujours au même endroit et il était amené, porté à cet endroit par des amis. Et je dirais des amis très fidèles qui l'ont amené toujours au même endroit et qui revenaient sans doute le chercher le soir. Cela me rappelle l'histoire dans Marc 2 où un paralytique est amené à Jésus, il est guéri par Jésus, pardonné par Jésus et ses quatre amis qui l'amènent aux pieds de Jésus. C'est bien d'être un ami, d'être une amie fidèle à ses amis. Selon Actes 4, 22, cet homme avait 40 ans. Ce n'était pas un gamin. Nous, on disait à l'époque, en Israël, que 40 ans, c'était vraiment l'âge de la sagesse ou l'âge de la maturité. Oui, merci pour le mot. De la maturité. J'ai parlé tellement de laotien la semaine dernière que j'oublie mon français. Bon. L'âge de la raison. Il était un homme mûr. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait 21 ans et il est vacciné. À l'époque, on disait qu'il avait 40 ans. Donc, c'était pas un gamin et il savait de quoi il parlait. Et cet homme avait un prénom. Est-ce que vous l'avez vu dans le texte? Moi non plus. Je ne connais pas son prénom. Mais Dieu le connaissait. Et Dieu s'est intéressé à cet homme-là, à ce moment-là. Vous savez, ce n'est pas important d'avoir un prénom ou d'être connu. Quand on regarde la Bible, on voit plein de personnes qui ont fait des choses et on ne connaît pas leur nom. Pensez au gamin qui donne son pique-nique à Jésus. Et Jésus en nourrit 5000 personnes. On ne connaît pas son prénom. Pensez aux deux espions qui vont chez Rahab, le prostitué, qui lui parlent, qui l'évangélisent, on va dire. On ne connaît pas le prénom. Pensez aux hommes de Dieu dont on parle dans les rois, dans les chroniques. On voit un homme de Dieu vient, il dit quelque chose, il disparaît. Plusieurs fois, on voit ça. On ne connaît pas le nom de ces hommes de Dieu. Pensez aussi à la femme samaritaine. On ne connaît pas son nom. La fille de Jaïrus. On connaît son père, mais elle, on ne connaît pas son nom. Le joli Philippien, dans Actes 16. L'eunuque éthiopien, dans Actes 18. On ne connaît pas leur prénom. Mais ce qui est marqué à leur sujet nous concerne de près. Dans le livre de Jérémie, Jérémie dit à son bras droit Baruch, dans Jérémie 45, « Si tu recherches de grandes choses, ne les recherche pas. » Autrement dit, si tu veux te faire un nom, si tu veux devenir célèbre au service de Dieu, arrête de chercher à devenir célèbre. Contente-toi d'être personne. Anonyme. Un inconnu. Mais fais ce que tu dois faire. Et quand je lis ce texte, je me dis, bon, Dieu s'intéresse à nous. Il ne nous demande pas de faire des miracles, ou de se faire un nom, il nous demande de vivre pour lui là où nous sommes. Que ce soit Lyon, que ce soit ailleurs, peu importe. Il nous demande de lui rester fidèle, même dans l'anonymat. Il y a aussi Pierre et Jean dans cette histoire. Pierre et Jean ensemble. Dans Actes chapitre 1, nous avons la liste des 12 apôtres, des 12 disciples, et les deux seuls dont on parle après Acte 1, dans le livre des Actes, c'est Pierre et Jean. On les trouve ensemble plusieurs fois dans les évangiles aussi, mais dans les Actes, on les voit en train de prier ensemble, chapitre 1, chapitre 3. On les voit en prison ensemble, chapitre 4. On les voit en train d'évangéliser ensemble, chapitre 3, 4 et 5. Pardon, 3, 4 et 8. Et aussi dans les évangiles, de temps en temps, Pierre et Jean sont ensemble. Dans Luc 5, il est question de Pierre, Jacques, Jean et André qui vont à la pêche. Dans Luc 22, deux disciples sont appelés par Jésus pour aller préparer la chambre haute pour la Sainte Cène. Il s'agit de Pierre et de Jean. Et bien sûr, lorsque les femmes viennent pour dire aux disciples « Jésus est vivant », deux disciples partent en courant pour voir le tombeau vide. Jean, qui est jeune, il fonce. Il arrive en premier. Et Pierre, qui est peut-être un peu moins jeune et qui a des problèmes de genoux et comme moi, eh bien, il arrive happé et il arrive et puis il voit ce qui se passe. On dirait ici, Pierre et Jean sont ensemble. Alors, que se passe-t-il dans ce miracle? Eh bien, il y a d'abord une guérison instantanée. Immédiatement, il se lève. Une guérison, je dirais, vérifiable, parce que vous savez, un des témoins de beaucoup d'événements dans les Actes des Apôtres était un médecin, un toubib, le docteur Luc, le médecin bien-aimé, selon Paul dans Colossiens 4. Il était souvent là et il a soigné des malades. Et dans le livre des Actes, il voit pas mal de miracles et il peut les vérifier. Et c'est toujours important qu'un miracle de guérison soit vérifié par un médecin ou par des spécialistes de santé. En tout cas, comment se fait-il que cet homme ait été guéri? Eh bien, tout simplement, Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. D'ailleurs, c'est un chant qui existe en français et je l'ai appris en anglais quand j'avais 10 ans. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce message est enregistré, donc je ne vais pas chanter ce chant. Sinon, ceux qui vont écouter le message sur Internet vont appuyer sur arrêt tout de suite. Bref, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est guéri. C'est au nom de Jésus que cet homme est guéri. Et Pierre dit au début de sa prédication, ce n'est pas à cause de ma puissance ou de ma piété que cet homme est guéri. C'est au nom de Jésus. C'est par la foi en son nom, il dit au verset 16, à deux reprises, c'est par la foi au nom de Jésus que cet homme a été guéri. On chante parfois, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Et nous savons qu'un jour futur, tout genou fléchira au nom de Jésus. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, tous vont reconnaître que Jésus est Seigneur. Certains vont le reconnaître comme sauveur, et malheureusement, la majorité vont le reconnaître comme juge. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Pierre, donc, confirme et affirme, ce n'est pas à cause de nous, c'est grâce à Jésus que cet homme a été guéri. Jésus qui est appelé dans ce chapitre, et chapitre 4, il est appelé le Saint. Jésus est appelé le Juste. Jésus est appelé le Messie. Jésus est appelé le Sauveur. Jésus est appelé le Serviteur de Dieu. Et une seule fois dans le livre des Actes, Jésus est appelé le Fils de Dieu. Jésus est intervenu pour guérir cet homme. Mais cet homme avait une part à jouer, un rôle à jouer. Parce que Pierre lui dit, lève-toi et marche. Et cet homme se lève. Et il marche. Et non seulement il marche, il court, il saute, tellement il est heureux d'être guéri. Plusieurs fois, on lit dans les Actes des Apôtres cette petite phrase, lève-toi. Pierre le dit à Aîné dans Luc. Dans Acte 9, il le dit à Dorcas dans Acte 9 aussi. Pierre le dit à Corneille dans Acte 10. Et tout à l'heure, nous avons lu que Jésus le dit à Saul de Tarse, le jour de sa conversion, lève-toi et va vers ceux qui sont dans les ténèbres. Plusieurs fois, Dieu dit à des gens dans les Actes et dans les Évangiles, lève-toi. Et parfois, je me dis, mais le Seigneur, je suis sûr qu'il a envie de nous dire parfois, bah, lève-toi et va. Lève-toi et marche. Lève-toi, secoue-toi, bouge-toi, agis. Quel est la suite de l'histoire? Eh bien, il y a le peuple. Le peuple, nous avons lu, est rempli d'étonnement et de stupeur. Le peuple est stupéfait, étonné de voir cet homme qu'il connaissait depuis des années. C'est le même bonhomme, mais il marche, il court, il saute. Et le peuple veut savoir davantage. C'est pour ça qu'ils vont suivre Pierre et Jean jusqu'à une autre porte, le portique de Salomon, et Pierre commence une prédication de l'évangile. Il y a aussi le bonhomme, le monsieur handicapé, le paralytique. Il marche, il saute, il loue le Seigneur. Ça veut dire qu'il montre sa reconnaissance. Il les suit au temple pour louer le Seigneur. Il est reconnaissant d'avoir été guéri. Il est reconnaissant d'avoir rencontré Dieu par le moyen des apôtres. Il ressemble à un lépreux sur 10. Vous vous souvenez, dans les évangiles, 10 lépreux sont guéris, 1 dit merci. Être reconnaissant. Exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18. Est-ce que nous sommes des gens reconnaissants? Il y a deux mots qui sont le contraire de reconnaissant dans mon vocabulaire. Le mot ingrat et le mot râleur. Si on n'est pas reconnaissant, soit on est ingrat, soit on est râleur, ou on est ingrat et râleur. Est-ce que ça existe? Ah ben, je peux vous donner des noms, hein. Bon, n'en parlons plus. Soyons reconnaissants. Les chefs religieux, eux, ils sont en colère, ils sont furieux, excédés par les propos des apôtres et par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent. En ce qui concerne les apôtres, ils prêchent la bonne nouvelle du royaume. Ils prêchent la bonne nouvelle de la repentance. Ils prêchent la bonne nouvelle de la conversion. Ils saisissent l'occasion pour annoncer l'évangile. Parce qu'une guérison ne suffit pas. Les gens se convertissent par ce qu'ils entendent. La foi vient de ce qu'ils entendent et ce qu'ils entendent vient de la parole. Il faut prêcher l'évangile. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors je conclue en disant que dans ce récit que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois depuis que je connais le Seigneur, il y a toujours une petite phrase qui me saute aux yeux. Et cette petite phrase se trouve au verset 5. Il est écrit au sujet du mendiant, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Bon, il s'attendait à recevoir une pièce. Je crois qu'il n'y avait pas de billets à l'époque, mais une pièce ou des pièces. Oui. Il n'a pas reçu ce qu'il voulait, mais il a reçu ce qu'il lui fallait. Eh bien, je me dis, mais cette semaine, est-ce que je vais croiser des gens qui vont s'attendre à recevoir quelque chose de ma part? Je ne parle pas d'une pièce ou d'un billet, mais peut-être des gens qui ont besoin d'une oreille attentive, d'un petit sourire, d'un coup de main ou d'un coup de pied, une parole d'encouragement, et que sais-je encore? Je vous retourne la question. Est-ce que vous avez rencontré des gens aujourd'hui ou dans les jours qui viennent qui vont s'attendre à recevoir quelque chose de votre part? Une parole d'encouragement. Une tapette sur le dos. Un petit merci. Un petit merci, peut-être un grand merci pour certaines personnes. Sachez que nous allons tous rencontrer des gens qui ont des besoins. Et des gens qui vont peut-être s'attendre à recevoir quelque chose de notre part parce qu'ils savent que nous sommes chrétiens. Eh bien, est-ce que ces gens-là seront déçus ou est-ce qu'ils seront contents de nous rencontrer et reconnaissants de recevoir quelque chose de notre part? Et je me répète, il ne s'agit pas de donner de l'argent, forcément, mais donner quelque chose de nous-mêmes, donner de notre temps, une oreille attentive, une parole, un sourire. Nous sommes entourés par des gens qui sont dans le besoin, et nous, en tant que chrétiens, nous avons plein de choses qui peuvent les combler dans leurs besoins. Que le Seigneur nous aide à être sensibles à ceux autour de nous qui sont dans le besoin, qui se tendent à recevoir quelque chose, et que nous puissions aussi nous donner et partager le Seigneur avec ceux qui en ont besoin. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cet homme qui a rencontré les disciples et qui a rencontré le Christ. Merci Seigneur, car nous t'avons rencontré. Et nous nous attendions à recevoir quelque chose de ta part et tu nous as comblés. Aide-nous Seigneur à partager ces bénédictions avec d'autres dans les jours à venir. Tu vois les gens autour de nous, chrétiens et non-chrétiens, qui ont des problèmes, qui ont des attentes. Seigneur, sers-toi de nous et aide-nous aussi à nous contenter de rester dans l'anonymat. Nous ne voulons pas nous faire un nom ou une réputation mondiale. Nous voulons être des simples, des serviteurs humbles de l'Éternel. Agis dans notre cœur et continue ton œuvre en nous et au travers de nous, nous te prions. Au nom de Jésus, Amen.